Bonjour, bienvenue sur RTL, c'est parti pour Confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour dévoiler la face cachée d'une personnalité. C'est une famille extrêmement secrète et pourtant parmi les plus connues au monde, les Bettencourt. Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière du groupe L'Oréal, est la femme la plus riche de la planète, à la tête d'une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros. Un nom désormais indissociable du scandale politico-financier qui a secoué jusqu'aux plus hautes instances de l'État pendant près de 10 ans. Patriarcat, lourd passé, relations mère-fille controversées, engouement sans limite pour un photographe trublion, argent colossal, évasion fiscale, procès, c'est plus qu'une histoire de famille, une véritable saga. Mais que cachent les Bettencourt derrière ce que l'on voit tous? Comment Françoise Meyers parvient-elle à garder, depuis toutes ces années, tant de discrétion sur son quotidien? L'héritage n'est pas si simple à porter, vous allez voir. Confidentiel Bettencourt, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec la grand reporter du Monde et autrice Raphaël Baquet. Elle a réalisé l'une des enquêtes les plus poussées sur la famille à la tête de L'Oréal. On est le 22 novembre 2007 à Neuilly-sur-Seine. L'ancien sénateur André Bettencourt est mort 3 jours plus tôt, il avait 88 ans. Toute la bonne société française est présente à ses obsèques. Bernadette Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, des hommes politiques de premier rang, mais aussi des industriels puissants et des personnalités du monde de la culture. André Bettencourt a été maintes fois ministre, que ce soit sous le général de Gaulle ou sous Georges Pompidou. C'est donc une figure de la Ve République que l'on enterre. Mais pas seulement. Car si son destin a toujours été intrinsèquement lié à celui du pays, c'est aussi beaucoup grâce à sa femme, Liliane. Liliane Schweller, la fille d'Eugène Schweller, le fondateur de L'Oréal. Depuis la mort d'Eugène, en 1957, Liliane Bettencourt est devenue la femme la plus riche du monde, avec un patrimoine estimé à l'époque à 30 milliards d'euros. Liliane, 85 ans, est là, bien sûr, à l'enterrement de son mari André, tiré à 4 épingles, au premier rang, avec sa famille. À ses côtés, on trouve sa fille, Françoise, et son gendre, Jean-Pierre Meyers, ainsi que leurs 2 enfants, Jean-Victor et Nicolas, 2 jeunes hommes qui incarnent l'avenir. L'avenir de L'Oréal, mais aussi celui de la famille Bettencourt. Les proches du couple Bettencourt se sont installés à côté de la famille, tous ceux qui venaient régulièrement leur rendre visite dans leur superbe hôtel particulier de la rue de la Bordère à Neuilly. 1000 mètres carrés et un jardin si vaste que lorsque l'on franchit les grilles, on a l'impression d'être à la campagne. Les proches, ce sont ceux aussi qui étaient invités pour les vacances dans leur propriété bretonne de l'Arcouest, dans celle de Majorque, aux Baléares, ou encore sur leur île privée d'Aros, aux Seychelles, un paradis de sable blanc au milieu d'un lagon bleu azur, décor de rêve absolu, vous l'avez compris. Le personnel des Bettencourt, majordome, femme de chambre, secrétaire, ils sont tous là également à l'arrière de l'église, de même qu'un certain François-Marie Bagné. Bagné, l'artiste iconoclaste, écrivain et photographe, qui est devenu depuis près de 20 ans l'un des plus proches amis du couple Bettencourt. Et plus particulièrement, l'ami de Liliane, qui est extrêmement généreuse avec lui. Elle lui offre régulièrement des tableaux de maître, des appartements et de très, très grosses sommes d'argent. André Bettencourt s'est toujours montré très courtois avec cet homme, avec ce Bagné, un amuseur dont Liliane ne pouvait plus se passer, même s'il n'était pas vraiment d'accord avec les dépenses excessives des 2 complices. Mais après tout, ce n'est pas son argent, c'est la fortune de sa femme. Il y a une autre personne qui, elle, se montre beaucoup, beaucoup plus méfiante envers le photographe. C'est Françoise, Françoise Bettencourt-Meyers, la fille unique du couple Bettencourt. Elle pense que Bagné est un parasite. Dans le privé, elle l'appelle même « Raspoutine ». Françoise nourrit depuis le début une haine froide envers ce trublion dont sa mère s'est entichée. Une mère avec qui les relations ont toujours été compliquées. Liliane n'a jamais eu la fibre maternelle. Elle s'est toujours montrée distante envers cette petite fille timide, discrète et affectueuse. Enfant, Liliane lui avait même trouvé un surnom, la moule collée au rocher. Françoise grandira loin des fastes que son nom et sa fortune lui confèrent, une enfant solitaire qui préfère son piano et la musique de Bach. Quelque part, secrètement, Françoise est sans doute un peu jalouse de l'intérêt que sa mère porte à l'énergumène Bagné. Lui qui est son exact opposé, extraverti, fantaisiste et mondain. Le jour même de la mort d'André, François-Marie se trouvait là, dans la chambre du défunt, en pleine scène de recueillement familial. Françoise n'en croyait pas ses yeux. Cet intrus, ici, à un moment pareil, si intime, déjà que des rumeurs rapportent qu'il aurait tout fait pour se faire adopter. Eh bien, c'en est trop pour Françoise. Maintenant que son père est parti, elle est bien décidée à reprendre les choses en main. Dans une rare interview donnée au journal Le Monde en 2012, elle reviendra sur ce moment. Quelques mois avant la mort de mon père, nous avons longuement parlé et j'ai compris que j'en savais bien plus que lui. Mais je ne voulais pas le faire souffrir davantage. Il ne s'est pas écoulé plus d'un mois entre la mort de mon père et l'engagement de la procédure judiciaire. Le 19 décembre 2007, donc, un mois jour pour jour après la mort d'André Bettencourt, Françoise, sa fille, porte plainte pour abus de faiblesse contre François-Marie Bagné. Elle l'accuse de profiter de la vulnérabilité de sa mère pour obtenir ses faveurs. C'est le début d'une affaire qui fera bientôt trembler bien plus qu'une famille, un scandale d'État, l'affaire Bettencourt. Mais pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, à ce nouveau chapitre familial, un chapitre qui verra la mère et la fille se déchirer pendant 3 ans, il faut déjà s'intéresser à l'histoire de la famille Bettencourt, ou plutôt à celle de la famille Schueller, celle de Liliane, et remonter aux origines d'une des plus grandes fortunes françaises. On est en 1909 à Paris. Un certain Eugène Schueller vient de fonder une société qu'il a appelée L'Oréal. Eugène est chimiste de formation, il est brillant, il est ambitieux. 2 ans plus tôt, il a mis au point les premières teintures capillaires de synthèse qu'il a baptisées Oréal. Rien ne le prédestinait à se lancer dans les produits cosmétiques. Les Schueller sont originaires d'Allemagne. Pendant la guerre franco-prusse de 1870, ils ont décidé de rejoindre Paris. Eugène naîtra dans l'arrière-boutique de la boulangerie de ses parents. Ses origines modestes ne le décourageront jamais de faire des études. Le travail est une vertu cardinale chez les Schueller. Et Eugène, tout en prenant sa part au magasin, sortira diplômé de l'Institut de chimie, avant d'assister quelque temps l'un de ses professeurs. Et là, voilà le tournant, un coiffeur vient un jour soumettre un problème de teinture à cheveux à l'équipe de chercheurs dont Eugène fait partie. « Qui veut s'en occuper après son travail ?» demande-t-il. Un seul lève la main, le jeune Schueller. La nuit, dans la cuisine de son 2 pièces, le bourreau de travail teste formule sur formule et il finit par découvrir un procédé. Une teinture de synthèse dont il déposera le brevet. Le commencement de l'histoire et le début de la fortune. En 1909, la légende d'Eugène Schueller est donc en marche. Il fonde L'Oréal et se marie à Louise, une musicienne dans l'âme que tout le monde appelle Betsy. Il faudra attendre encore une bonne 12aine d'années avant qu'un enfant ne voie le jour. En matière de famille, les choses prennent toujours du temps chez les Bettencourt. Pour l'instant, nous sommes encore au début du siècle, quand la Première Guerre mondiale éclate. Eugène se mobilise aussitôt, et pendant que lui se bat courageusement à Verdun et au Chemin des Dames, il confie les rênes de son entreprise naissante à Betsy, sa femme. À son retour, une excellente surprise l'attend. Son affaire a explosé. En fait, pendant le conflit, les femmes ont remplacé les hommes, partis au combat. Elles ont raccourci leurs cheveux, à la manière de Coco Chanel, la nouvelle coqueluche de la mode parisienne. Les teintures, longtemps mal vues, sont désormais en plein boom. Les produits L'Oréal s'exportent même à l'étranger. Schueller ouvre des bureaux à Londres et à New York. Il profite à fond de cette émancipation des femmes. Il n'en demeurera pas moins, toute sa vie, un machiste borné. Eugène travaille 16 heures par jour quand en 1922, Betsy lui donne enfin une enfant. Liliane, une fille, donc son unique descendant. Pour autant, jamais Eugène ne pensera à elle pour lui succéder à la tête de l'entreprise. Ce qu'il pense, lui, c'est qu'un jour, la place de Liliane sera la même que celle de Betsy au foyer. Eugène, qui consacre tout son temps à L'Oréal, n'accorde pas beaucoup d'attention à son unique héritière. Liliane n'a que 5 ans quand sa mère meurt soudainement des suites d'un abcès au foie. En pleine nuit, on est venu me chercher et j'ai vu mon père à genoux au pied du lit de ma mère, racontera-t-elle en évoquant le souvenir de cette maman qui jouait du piano et qui chantait. Quand elle est morte, il n'y a plus eu de musique dans la maison. La petite fille a beau être orpheline de sa mère, son père ne s'en occupe pas plus. Les journées d'Eugène restent entièrement dédiées à l'entreprise. Il n'a pas le temps de cocooner. C'est une nurse anglaise, Nita, qui s'occupera de Liliane en attendant d'être envoyée chez les religieuses. Elle dira « Ma mère me manquait terriblement, comme un creux qu'on ne peut pas remplir. » Quant à son père, elle ne cessera jamais de l'idéaliser. Même quand il se remariera. Eugène n'ira d'ailleurs pas chercher bien loin, car en 1932, le voilà qui épouse Nita, la gouvernante de la fillette. Ce sera un nouveau choc affectif pour la petite Liliane. Elle n'évoquera d'ailleurs que très rarement cette belle-mère qui avait pris pour elle le peu d'amour disponible d'Eugène. Dans ses années d'entre-deux-guerres, l'entrepreneur Schweller, lui, a la tête ailleurs. Il se dédie corps et âme à L'Oréal, toujours. Après La Beauté des Femmes, le voilà qui s'attaque à l'hygiène des Français en rachetant Montsavon. Puis, en mettant au point un fameux shampoing, le shampoing Dop, qui atterrira bientôt dans tous les foyers. Et en 1936, alors que le Front populaire vient de voter les premiers congés payés, il vend au nouveau vacancier qui se rue sur les plages sa dernière invention, la crème solaire. De quoi leur éviter les coups de soleil et remplir encore un peu plus les poches d'Eugène Schweller. Avec un sens des affaires sans égal, vous l'avez compris, il a réussi à transformer L'Oréal en un véritable empire. Et voilà que la Seconde Guerre mondiale éclate. On est en 1941. Les troupes nazies ont fait leur entrée dans Paris un an avant. Les Français sont en plein dans la période trouble de l'occupation. De son côté, Eugène Schweller, qui craint davantage le communisme que l'Allemagne d'Hitler, voit cette situation comme un moindre mal. Le patron de L'Oréal aime l'ordre et il ne croit qu'à l'autorité d'un chef. Et surtout, il ne jure que par les affaires. Et en matière d'affaires, il vante même le dynamisme d'un Hitler qui pousse tout le monde. Sauf que le chef d'entreprise, économiste à ses heures perdues, a des envies de politique. Et il a rapidement épousé les idées fascistes qui viennent de l'Italie et de Berlin. Depuis 1936, il s'est même lié d'amitié avec un certain Eugène Deloncle, un intellectuel d'extrême droite, ainsi que son bras droit, Jacques Corrèze. Les deux hommes ont créé un groupuscule terroriste, la Cagoule. Avant-guerre, on leur doit quelques assassinats politiques et un attentat à la bombe. Des actions que le patron de L'Oréal est suspecté d'avoir financées. En cette année 1941, celui qui se dit favorable à une révolution d'épuration prononce donc des discours devant la fine fleur de la France collaborationniste, ce qui trouve Pétain trop mou et érige l'Allemagne nazie en modèle. L'essentiel, pour nous, dit-il, c'est la rupture complète et définitive avec un passé récent. Avec les méthodes et les hommes de la Troisième République, avec la franc-maçonnerie et la juiverie. Avec de telles convictions, Eugène Schweller ne tarde pas à travailler main dans la main avec l'industrie allemande. L'Oréal multipliera son activité par 4 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut ajouter qu'Eugène est également dirigeant des peintures Valentine que les Allemands achètent à tour de bras pour recouvrir leurs engins de guerre. À la Libération, en 1946, le patron de L'Oréal sera dans un premier temps condamné pour collaborationnisme avant que, contre toute attente, des témoignages et des courriers viennent attester du contraire et achèvent même de le blanchir définitivement. Si on les croit, ces courriers, ces témoignages, la collaboration du mania des cosmétiques n'aurait été en fait qu'une couverture pour dissimuler sa véritable activité de résistant. Et un certain André Bettencourt fait partie de ceux qui défendront toujours farouchement l'authentique patriote Eugène Schueller. Mais comment se sont-ils rencontrés, ces deux-là ? André Bettencourt et Eugène Schueller se connaissent en fait depuis 1938. Ils ont fait connaissance autour d'un déjeuner. Le jeune Bettencourt, étudiant en droit, qui vient de s'inscrire à Sciences Po, partage des convictions proches de celles du patron de L'Oréal. Lorsqu'André arrive chez Eugène, sa fille Liliane, 16 ans, est là, elle aussi. Mais avant tout, c'est pour le père que ce catholique fervent, qui descend d'une vieille famille de la bourgeoisie normande, a un coup de foudre. Il remarque à peine Liliane, jeune fille timide. Ce n'est que quelques temps plus tard, lors d'une autre de ses visites chez Eugène Schueller, qu'il s'intéressera à la jeune Liliane. À l'époque, André compte parmi ses amis les plus proches deux étudiants ambitieux rencontrés dans une pension de la rue Vaugirard, François Dalle et un dénommé François Mitterrand. Tous les trois sont promis à un avenir brillant. L'un deviendra patron de L'Oréal, l'autre, vous le savez, président de la République. Quant à André, il finira par épouser Liliane, même si pour cela, il faudra encore attendre 1950, soit 12 ans après leur première rencontre. Car la fille unique d'Eugène Schueller, et héritière de L'Oréal, n'est pas vraiment pressée de se faire passer la bague au doigt. C'est presque à reculons qu'elle se laissera conduire devant le maire à l'âge de 28 ans, tard pour l'époque. Au moment de choisir son alliance, elle dira même à son futur mari de ne pas prendre la bague trop serrée. Liliane, comme André, tient à garder une certaine indépendance. Leur fille Françoise verra le jour en juillet 1953. À sa naissance, Liliane contracte une tuberculose qui la tiendra éloignée un moment de son bébé et lui coûtera une grande partie de son audition. Des séquelles éprouvantes pour la jeune femme, et Liliane ne saura jamais vraiment comment s'y prendre avec sa petite. Elle qui, je le rappelle, a été privée de sa mère très tôt. Le couple, André-Liliane, n'aura jamais d'autres enfants et fera rapidement chambre à part. Françoise Bettencourt grandit dans une cage dorée, avec des habitudes hors normes. C'est ce que raconte Raphaël Baquet dans son livre Succession. Par exemple, c'est un chauffeur qui l'emmène à l'école. Comme sa grand-mère, la trop vite disparue Betsy, Françoise a des prédispositions pour le piano. On embauche la virtuose Yvonne Lefébure pour lui donner des cours. Elle joue 3 heures par jour, souvent avec son amie d'enfance, la chanteuse et comédienne Arielle Dombal. Et quand elle n'est pas à l'école, la petite Françoise voyage beaucoup avec ses parents. Car après la mort d'Eugène Schueller en 1957, le couple Bettencourt est de plus en plus sollicité pour L'Oréal. Liliane est désormais la propriétaire de l'Empire, même si elle ne dirigera jamais l'entreprise. Son rôle, tel que défini par son père, est celle de la gardienne du temple. C'est François Dalle, le grand ami d'André, on l'a dit, qui a été choisi par Eugène pour lui succéder. André, justement, qui est entré au cabinet de Pierre Mendès-France par l'entremise de son autre compère Mitterrand, consacre la majeure partie de son temps à la politique. Entre 66 et 73, André sera de tous les gouvernements. Cette même année, 1973, c'est en tant que ministre des Affaires étrangères qu'il se rend avec Liliane en Chine pour rencontrer le président Mao. À cette époque, Françoise Bettencourt, elle, a tout juste 20 ans. Elle est plutôt timide et elle non plus n'est pas appelée à diriger un jour l'entreprise familiale. Mais c'est pourtant lors d'une soirée organisée par ses parents avec les cadres de L'Oréal qu'elle rencontre son futur époux. Jean-Pierre Meyers est le fils d'un membre de la direction. Comme bon nombre de ses camarades de la jeunesse dorée parisienne, il partage lui aussi son temps entre le 16e arrondissement de Paris et Megève l'hiver. Derrière ce jeune homme plein de charme, lui aussi très discret, se cache un lourd héritage familial. Jean-Pierre descend d'une grande famille de rabbins. Son grand-père, Robert Meyers, déporté et assassiné à Auschwitz en 1943, est considéré comme un héros de guerre. La petite fille d'Eugène Schueller, au passé collaborationniste, avec le petit-fils d'un martyr de la Shoah, autant dire que les familles des deux jeunes gens ne sont a priori pas très emballées par cette idylle. Mais qu'importe, Françoise impose Jean-Pierre à ses parents. Les deux jeunes se marient en 1984, un simple mariage civil, là encore, après avoir attendu 12 ans. Françoise sait parfaitement bien que son nom et sa fortune suscitent les convoitises. Et la jeune femme tient à être certaine des sentiments désintéressés de Jean-Pierre à son égard, avant de lui offrir sa main. Le jeune couple emménage dans un duplex à quelques mètres de l'hôtel particulier de la rue de la Bordère, à Neuilly. Ils auront deux garçons, Jean-Victor, en 86, et Nicolas, en 88. Les Bettencourt, parents, et les Meyers se voient tout le temps. Chaque dimanche, Françoise, son mari et leurs enfants déjeunent chez André et Liliane. L'hiver, les deux familles partent skier à Megève. Tout le monde part dans l'immense propriété des Baléares ou en Bretagne, à l'Arquest. C'est d'ailleurs là, dans l'incroyable maison construite par Eugène Schweller en face de l'île de Bréa, que Françoise se fera, en juillet 1993, un avis définitif sur le nouvel ami de ses parents, un certain François-Marie Bagné. On est à l'été 1993. Comme chaque année, les Bettencourt passent une partie de la saison estivale ici, sur la pointe de l'Arquest, près de Paimpol. C'est une tradition familiale presque aussi vieille que L'Oréal. C'est ici que le patriarche Schweller venait passer le peu de vacances qu'il prenait pour faire du bateau sur son immense voilier. C'est là aussi, justement, après une sortie en mer et un sacré coup de soleil, qu'il a eu l'idée de créer cette crème qui protège des rayons UV. Liliane n'a jamais fait d'infidélité à cette grande demeure. Elle n'a jamais non plus dérogé à la règle. Ici ne viennent que les plus proches. Être invité à l'Arquest est un privilège, celui réservé à une petite poignée d'intimes. On est donc un midi de l'été 93 et un silence de plomb s'est abattu sur la terrasse qui surplombe la baie. Autour de la table, on trouve Liliane et André, ainsi que Françoise, Jean-Pierre et leurs enfants, mais aussi François-Marie Bagné. Lui, ici, au milieu de ce sanctuaire familial, autant dire que l'héritière jette à l'artiste loufoque un regard noir. Et ce qu'elle voit, c'est un homme qui semble avoir pris le pouvoir sur ses parents. Liliane et Bagné se sont rencontrés 4 ans auparavant, lors d'une séance photo chez les Bettencourt. Ils ont eu un coup de foudre amical. François-Marie la bouscule un peu, l'amuse. En fait, il sort la septuagénaire de son ennui et d'une certaine routine. Le photographe débarque dans sa vie comme une bouffée d'air frais. Il lui apporte quelque chose que tout l'or du monde ne peut acheter, de la fantaisie. Désormais, Liliane ne jure plus que par les excentricités de ce trublion. Et elle lui passe tout. Ensemble, ils vont voir des expos, ils voyagent autour du monde. Bagné lui présente des artistes, des écrivains et les personnalités du moment. Toute une galerie de personnages et de rencontres qui passionnent la milliardaire. Bagné lui a redonné le goût de la vie. Alors quelque part, elle se sent redevable et se montre assez facilement généreuse avec son nouveau meilleur ami. À cette époque, elle commence à lui léguer des œuvres de Matisse, de Picasso ou de Braque. Des millions d'euros de dons. De quoi faire perdre la tête à n'importe qui. À la table de l'Arquest, Bagné, le provocateur qui ne manque ni de culot ni de mauvaise manière, est très familier avec André. Françoise fulmine. Mais quelle arrogance! Comment parle-t-il à son père, cet ancien ministre, lui qui se prétend écrivain, photographe? Lui qui a certes fréquenté Dali et Aragon, mais qui n'arrive pas à la cheville des André Malraux et Maria Callas que ses parents recevaient à Neuilly autrefois. Pour qui se prend-il ce pseudo-artiste pour s'incruster jusqu'à la table familiale de l'Arquest? Françoise se le jure là, à l'été 93. C'est la dernière fois qu'elle se retrouve en sa présence. 14 ans plus tard, ce 19 novembre 2007, c'est pourtant François-Marie Bagné qu'elle découvre en arrivant dans la chambre de son père décédé. 14 ans à subir les outrages de l'histrion Bagné, 14 ans à implorer sa mère de s'en débarrasser alors qu'il ne cesse d'en demander toujours plus. 14 ans à fomenter sa revanche. Une revanche qu'elle peut désormais mettre en action, quitte pour cela à faire éclater au grand jour les secrets familiaux. L'année 2007 sera donc celle où le scandale éclate, celui de l'affaire Bettencourt, ou plutôt des affaires Bettencourt. Car Françoise Bettencourt-Meyers, en voulant se débarrasser du trop gourmand François-Marie Bagné, va ouvrir la boîte de Pandore et provoquer un raz-de-marée médiatique. le simple conflit familial, va se transformer en une véritable affaire d'État qui éclaboussera jusqu'au président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Après la mort d'André Bettencourt, Françoise Meyers est alertée par le personnel de maison de ses parents des continuelles largesses de sa mère envers son grand ami Bagné. Des œuvres d'art, des chèques, mais aussi des biens immobiliers et des assurances-vie. Au total, entre 1997 et 2007, Liliane Bettencourt offrira à Bagné des cadeaux d'une valeur de 917 millions d'euros. 917 millions d'euros. Presque 1 milliard. Une somme folle devant laquelle on a du mal à ne pas penser que Liliane a été manipulée par son compagnon. Françoise Meyers lance donc une procédure judiciaire en ce sens pour abus de faiblesse contre Bagné et envisage de placer sa mère sous tutelle. Mais c'était sans compter sur l'action du majordome de Liliane Bettencourt elle-même. Ce dernier ne supporte plus de voir Madame se faire abuser par des gens sans scrupules. Il veut apporter sa pierre à l'édifice et décide d'enregistrer clandestinement, et ce pendant plus d'un an, les conversations de sa patronne. Et ce que ces enregistrements révèlent va faire déborder l'affaire Bettencourt bien au-delà du conflit familial. Car le photographe est loin d'être le seul à bénéficier des faveurs de la femme la plus riche de France. Nombreux sont ceux à défiler dans son bureau pour obtenir un petit quelque chose qui prend le plus souvent la forme d'une enveloppe pleine de cash, une pratique déjà très courante du temps d'Eugène Schueller et que Liliane a simplement fait perdurer. Le 16 juin 2010, l'affaire prend une tournure politico-financière quand le site Mediapart met en ligne ces fameux enregistrements du majordome. On y évoque notamment une douzaine de comptes cachés en Suisse. Mais aussi, il s'avère que des liens privilégiés se seraient tissés entre le gestionnaire de fortune de la milliardaire, Patrice Demestre, et le ministre du budget de l'époque, Éric Woerth. De possibles conflits d'intérêts sont évoqués. C'est alors que, nouveau rebondissement, l'ex-comptable de la milliardaire entre en jeu. Elle prétend que Liliane Bettencourt a donné de l'argent à ce même Éric Woerth en 2007, alors qu'il était le trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. L'affaire Bettencourt fait alors trembler la République.
RTL Matin, Vincent Parisot.
Et évidemment, Marion, on commence ce journal par ces accusations extrêmement graves et très précises de l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt.
Elle raconte sur le site internet Mediapart comment sa patronne aurait financé régulièrement des personnalités de la droite française, dont Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle de 2007.
Évasion fiscale, financement illégal d'une campagne, ça part dans tous les sens. La justice française mettra 10 ans à se prononcer. Nicolas Sarkozy bénéficiera finalement d'un non-lieu. Éric Woerth, lui aussi, sera relaxé. L'affaire Bettencourt laissera néanmoins une tache indélébile sur la vie politique française. En 2016, François-Marie Bagné, de son côté, sera en effet condamné en appel pour abus de faiblesse. Il écopera de 4 ans de prison avec sursis et de 375 000 euros d'amende. Je rappelle qu'il avait reçu près d'un milliard d'euros de cadeaux de son amie Liliane. Mais ce qui importe surtout à Françoise Bettencourt Meyers, c'est qu'elle aura finalement obtenu gain de cause. En 2010 déjà, la fille discrète avait fait la paix avec sa mère. À l'abri des regards, son bras de fer avec Liliane avait lui aussi fini par payer. Car avant de mourir en septembre 2017, à l'âge de 94 ans, la milliardaire avait finalement concédé à sa mise sous tutelle. Françoise Bettencourt Meyers, la nouvelle héritière de L'Oréal, aura gagné sur tous les tableaux. Preuve qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer cette femme de l'ombre et son clan. C'est l'erreur qu'aura longtemps faite les Bettencourt. Force est de constater que les Meyers n'auront pas attendu 2017 et la disparition de Liliane Bettencourt pour laisser leur empreinte sur L'Oréal et la dynastie familiale. Même si pour le comprendre, il faut faire un nouveau saut dans le temps, au début des années 90. La journaliste Raphaël Baquet, qui sera là dans un instant, dans son livre Succession, raconte cet autre duel familial qui oppose cette fois André Bettencourt et son gendre, Jean-Pierre Meyers. On vous explique.
À l'époque, dans la presse, on parle de l'affaire Friedman. Car Jean Friedman est le businessman franco-israélien par qui le scandale arrive. Cet ancien résistant et survivant de la Shoah va faire des révélations fracassantes sur L'Oréal et le passé trouble de ses dirigeants. Nous sommes en 1989 et le rôle d'Eugène Schueller pendant la guerre, sa proximité avec la cagoule dont on parlait tout à l'heure, tout cela n'est connu que d'une poignée d'initiés. Sauf que l'homme d'affaires Friedman accuse publiquement l'Empire des cosmétiques d'héberger, depuis la fin des années 40, d'anciens collaborateurs, et notamment Jacques Corrèze, on en parlait aussi. Il a été condamné après la guerre et embauché à sa sortie de prison par L'Oréal. D'après Friedman, Corrèze ne serait pas un cas isolé. Mais ces révélations ne s'arrêtent pas là, car au-delà du groupe, c'est aussi André Bettencourt lui-même qui est visé. L'ancien ministre, proche du fondateur, époux de sa fille, siège à la vice-présidence de L'Oréal quand son passé antisémite ressurgit. En 1941, le jeune André Bettencourt, très attaché à sa foi catholique, écrivait dans La Terre française, un hebdomadaire collaborationniste, les lignes suivantes. Les juifs, les pharisiens hypocrites n'espèrent plus. Pour eux, l'affaire est terminée. Ils n'ont pas la foi. Ils ne portent pas en eux la possibilité d'un redressement. Pour l'éternité, leur race est souillée par le sang du juste. Ils seront maudits de tous. Le père de Françoise Bettencourt-Meyer s'abat plaider l'erreur de jeunesse. Son gendre, Jean-Pierre, qui est membre du conseil d'administration de la firme, se retrouve devant un cas de conscience. Doit-il fermer les yeux devant cet héritage familial accablant ? Doit-il au contraire, au nom des siens morts dans les camps nazis, taper du poing sur la table ? En 1994, l'affaire est tranchée. Jean-Pierre Meyers obtient le départ de Jacques Corrèze et d'André Bettencourt du groupe. Par ce coup de force, cet homme que l'on dit volontiers effacé assoit son influence à la fois dans la famille et au sein de L'Oréal. L'humiliation sera terrible pour André Bettencourt, qui comprend à ce moment-là que l'ère Meyers sur la destinée familiale ne fait que commencer. Revenons en 2024. On est 30 ans après l'éviction d'André Bettencourt de L'Oréal, 7 ans après la mort de Liliane. Le destin des Schueller, des Bettencourt, intrinsèquement lié à celui de L'Oréal depuis plus d'un siècle, est entré dans une nouvelle ère. Une nouvelle génération, la quatrième, est désormais aux commandes. Au fil des années, ce sont les fils Meyers, Jean-Victor et Nicolas, qui sont devenus les nouveaux gardiens du temple. Et cette transition semble déjà avoir porté ses fruits. La fortune familiale aura ainsi presque triplé depuis la disparition de Liliane Bettencourt. 100 milliards d'euros en 2024 contre 35 en 2017. Avant d'entrer au conseil d'administration de L'Oréal, les fils Meyers, eux aussi, ont fait leur classe en visitant les points de vente à travers le monde. Leur mère ne leur a pas forcé la main, mais la force du destin est parfois plus forte que les aspirations personnelles. Le leur de destin sera sans nul doute de continuer l'œuvre de leur arrière-grand-père, Eugène Schueller. Un génie visionnaire, avec une extraordinaire force de travail. Au-delà de la fortune hors du commun qu'ils reçoivent, il y a aussi un héritage familial lourd à porter. La nouvelle génération de la dynastie des Bettencourt aura la charge de continuer de faire fructifier l'empire des cosmétiques, mais aussi une mission plus personnelle, celle de se réconcilier avec son passé.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde, autrice. On vous doit une quinzaine d'ouvrages, le dernier en date Succession, coécrit avec Vanessa Schneider chez Albin Michel. Une partie y est consacrée à la famille Bettencourt. Vous êtes une des rares personnes à avoir obtenu un entretien avec Françoise Bettencourt-Meyers pour Le Monde. Et vous faites partie des quelques témoins de la série documentaire sur Netflix sur les Bettencourt qui a fait grand bruit il y a quelques mois. Une présentation un peu exhaustive, mais en un mot, je pourrais dire qu'il n'y a plus grand-chose que vous ne sachiez pas sur cette saga Bettencourt. Ça vous va, ça?
Oui, si tant est qu'on pénètre toujours les cœurs et les âmes, mais oui.
Ouais. Ma première question, en ce début d'année 2024, Françoise Meyers vient d'être annoncée comme étant la femme la plus riche au monde, à la tête d'une fortune estimée à plus de 100 milliards d'euros, la fameuse barre des 100 milliards. Est-ce que ça reflète
aujourd'hui, en 2020, en janvier 2024, l'intimité de la famille Bettencourt-Smeyer. Est-ce que c'est une famille qui est aussi épanouie et heureuse que sa fortune estimée?
En tout cas, l'argent a pesé sur cette famille et pas au meilleur sens. L'argent ne fait pas les sentiments. Et ce qui pêchait dans cette famille, c'était justement le sentiment qu'avait la fille de ne pas être autant aimée qu'elle l'aurait désiré. Donc c'est vrai que ça a pesé sur eux.
Françoise Bettencourt-Meyer, cette grande discrète, hein, tout de même, parce que ça a été une saga médiatique pendant 10 ans. Hein, les affaires, ça a été les affaires Bettencourt. Malgré tout, elle reste comme étant une grande discrète. Enfin, on a vraiment le sentiment de pas du tout comprendre, de pas du tout palper en fait cette femme. C'est assez étonnant. Elle n'a pas souhaité d'ailleurs intervenir dans le documentaire Netflix. J'imagine qu'elle a été contactée. Vous savez pourquoi elle a refusé ?
Elle refuse quasiment toutes les interviews. Lorsque je l'ai interviewée pour Le Monde, c'était tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai mis plusieurs mois pour la convaincre.
Comment ça s'est passé ?
Bah vraiment, j'ai plaidé ma cause. Et puis, elle était en plein maelstrom sur cette histoire de succession et de contestation de la place de François-Marie Bannier.
Une rencontre qui, juste pour donner un peu les dates à nos auditeurs, donc le procès démarre en 2007, la bataille judiciaire démarre en 2007 et vous la rencontrez en 2012. Tout se termine en 2016. Voilà,
exactement.
Comme ça, on remet un petit peu le...
Donc, en 2012, je la rencontre enfin, après avoir beaucoup écrit sur la famille. Je l'ai rencontrée chez elle, d'ailleurs, dans une espèce de tête à tête, sans conseiller, sans personne.
Mais il n'y avait personne autour de vous, elle n'avait pas un conseiller quelqu'un qui écoutait, qui vérifiait ce que vous demandiez?
Pas du tout.
Il y avait eu des conditions posées avant, ne pas parler de ci ou de ça, ou une relecture?
Aucune. Et pas de relecture. D'abord, on l'accepte pas au journal, donc c'était convenu et elle a accepté ces conditions-là.
Ouais.
Et je dois dire qu'elle a été, elle mesurait ses mots, bien sûr. C'est pas une écervelée, loin de là. Mais enfin, elle a joué le jeu. Et c'était très intéressant aussi de la voir dans son intérieur, en fait, dans son intimité, parce qu'on imagine toujours que la femme la plus riche du monde vit forcément dans un extraordinaire château. Alors, c'était pas du tout le cas.
Il y a une petite phrase qui m'a fait sourire, qui m'a interpellée, parce qu'à un moment donné, donc vous lui parlez évidemment de son rapport à l'argent, et puis elle dit, mais regardez, enfin, je porte même pas de bijoux. Alors, c'est marrant, parce que c'est pas parce qu'on porte des bijoux qu'on est riche, mais on sent qu'en effet, elle a quand même très envie de se défendre sur le fait de pas du tout avoir une vie trop hors du commun par rapport, en effet, à cette fortune qui est complètement hors norme.
Je pense qu'elle a compris assez vite que l'argent était un danger. Donc, elle en jouit, bien sûr. Mais elle ne fait pas de démonstration ostentatoire de sa richesse. Et chez elle, ça correspond aussi à ça. C'est un bel appartement, bien sûr. Mais c'est un appartement de cadre supérieur. Mmh. C'est pas un appartement de milliardaire, comme elle l'est.
Elle n'était pas trop stressée?
Elle était très stressée. Ouais. Elle est très angoissée à l'idée d'apparaître. Elle était très angoissée par l'idée qu'on puisse la photographier. C'est une femme qui probablement ne s'aime pas autant physiquement qu'elle pourrait. Voilà. Elle était très inquiète de ce qu'elle pourrait dire. Mais encore une fois, c'est une femme posée, intelligente. Il y a des tas de... Quand on est journaliste, évidemment, on repère la gêne des uns et des autres. Elle a un rire tout à fait presque tonitruant par rapport à ce qu'elle est. Elle est assez jolie, en vérité, et elle s'en l'est dit. Donc, elle est très austère.
Et puis même, ses grosses lunettes, enfin,
exactement.
Dégage quelque chose qui attire l'œil quand même.
Elle ressemble vraiment à cette actrice qui jouait dans Love Story, ou elle ressemble à Irène Papas, une autre actrice grecque. Elle pourrait être assez belle, mais elle cultive une austérité qui, au contraire, ternit sa beauté. C'est très frappant, d'autant qu'elle est l'héritière d'un groupe de cosmétiques qui vit entièrement sur la beauté féminine.
Ouais, et c'est une façon de se protéger, vous pensez ?
Oui, je pense que c'est une façon de rester en retrait. C'est une forme de contraste aussi avec ce qu'était sa mère, qui était d'une beauté éclatante et cultivée, au contraire.
Après publication du papier, est-ce que vous avez eu un retour ?
Non, pas directement. J'ai rencontré après Jean-Pierre Meyers, tout à fait incidemment.
Donc, son époux ?
Voilà, son époux. Et non, c'est une famille... Enfin, d'abord, il n'y avait pas de raison d'exprimer un mécontentement ou un contentement. Ça ne servait plus à rien, à vrai dire, tout était publié. Donc, c'est une famille qui cultivait, en tout cas, s'est arrangée pour montrer qu'elle était assez libérale dans ce qui pouvait s'écrire sur elle.
Finalement, vous en l'ayant rencontré, suite à tout ce sur quoi vous avez travaillé, en une phrase, vous diriez Françoise Bettencourt-Smeyer, c'est qui ?
Je pense que c'est une héritière qui a essayé de se débrouiller avec une fortune qui a complètement dénaturé les relations autour d'elle. On a toujours envie d'envier les gens très riches, mais en réalité, ça crée un soupçon pour vous. Est-ce que ceux qui vous entourent le sont parce qu'ils vous aiment ou parce qu'ils sont intéressés ?
Elle a eu ce soupçon pour son mari.
Toute sa vie, elle a eu
ce soupçon pour
son
bagné, qui a mené à l'histoire, évidemment, qu'on connaît. Donc ça, on n'est jamais tranquille avec ça, toute la vie d'une héritière comme l'est Françoise Meyers.
Oui, parce que c'est vrai que, c'est ce que disait sa mère, mais à partir d'une certaine somme, les gens déraillent, disait-elle,
et
c'est très vrai. C'est très vrai. Donc, on n'est jamais certain que les gens sont désintéressés.
Elle a 70 ans aujourd'hui, Françoise Meyers. Elle est apaisée, tout de même, vous pensez ?
Oh oui, probablement. Ouais. D'abord, cette histoire est derrière elle. Elle a deux fils qui prennent la suite en tant qu'actionnaire. Donc, et elle peut probablement se consacrer à ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire la musique.
La musique, Bach, et puis la fondation aussi. Elle explique qu'elle...
C'est beaucoup son mari et ses enfants qui s'en occupent.
Ah oui.
Mais elle est au conseil d'administration et bien sûr, elle donne des orientations.
Elle est celle aussi de la vraie rupture, on l'explique dans le récit, avec les anciennes pratiques, notamment les petites enveloppes de cash. Elle a réglé toute la situation autour de la fiscalité du groupe. Ça, c'était quelque chose auquel elle tenait absolument, de vraiment... qu'il y ait vraiment un avant et un après avec son arrivée à la tête du groupe.
D'abord, je crois qu'elle y a été obligée. Elle y a été obligée à cause du scandale. Je ne suis pas certaine, je n'en sais rien, à vrai dire, puisque ça ne s'est pas passé, mais je ne suis pas sûre qu'elle aurait voulu d'elle-même rompre avec ses pratiques. Mais elle y a été obligée parce qu'effectivement, le scandale qu'elle a d'une certaine façon déclenché en contestant le rôle de François-Marie Bagné et de ce qu'il pouvait faire auprès de sa mère, a révélé à la fois l'exil fiscal, a révélé les dons en nature faits aux partis politiques. Et tout cela, elle a bien été obligée de rompre avec ses pratiques qui n'étaient pas les siennes, c'est vrai.
Vous pensez que ça a mis un coup de griffe un peu indélébile à la vie politique française, cette histoire ?
Je pense que ça correspond à une époque. Les Bettencourt n'étaient pas les seuls à financer les partis politiques. Ouais. Là, ça s'est vu de façon tout à fait spectaculaire, mais ils n'étaient pas les seuls. Mais à cette époque, c'est toute l'époque où, au fond, on prend des lois sur le financement des partis politiques, et l'affaire Bettencourt fait partie de cette vague d'assainissement, si je puis dire. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça ne se ferait plus, en tout cas pas comme ça.
Elle protège beaucoup ses deux fils, hein, on vient d'en parler. Ils ont autour de 35 ans. À un moment donné, il va bien falloir qu'elle les mette un petit peu plus en avant si elle veut que l'histoire continue au sein même de la famille. Pensez qu'elle retarde cette échéance ? Elle a peur de les envoyer plus au front ? Et pourquoi pas, par exemple, commencer à répondre à des interviews ? Parce que ça va continuer, les sollicitations médiatiques pour les Bettencourt.
Ils ne le font pas, mais de toute façon, les Bettencourt n'ont jamais dirigé L'Oréal. Oui. Hein, ils ont toujours placé un PDG qui dirigeait à leur place. Ils sont dans le conseil d'administration, et ça, ils l'ont toujours été. Et les deux fils de Françoise Bettencourt sont entrés dans le conseil d'administration et donc jouent leur rôle d'actionnaire.
Ouais.
Donc, de ce point de vue, ils agissent, si vous voulez, pour le groupe, mais ils ne dirigent pas. Je ne peux même pas dire qu'ils travaillent vraiment dans le groupe.
Ouais.
Ils ont de petites sociétés, essentiellement dans la mode d'ailleurs, pour l'aîné, mais ils ont une vie vraiment d'héritier tout de même. Donc ce ne sont pas... c'est pas du tout la même chose que les enfants de Bernard Arnault, par exemple.
Ouais, oui,
qui sont destinés à diriger et à remplacer véritablement leur père.
C'est de famille, évidemment, qui sont dans votre livre Succession avec Vanessa Schneider. Tellement différent.
Tellement différent, oui. C'est une éducation presque à l'opposé.
Comparable et à l'opposé, quoi.
À l'opposé.
Ouais.
Bernard Arnault a conditionné ses enfants à lui succéder et à travailler dans l'entreprise. Les Bettencourt, c'est au contraire.
Et les nominations à des postes de haute chefferie ne font que se succéder.
Ils dirigent réellement et ils sont destinés à le remplacer, lui, qui dirige réellement son groupe.
Ouais, tout à fait.
Les Bettencourt, c'est tout le contraire. Ouais. Liliane Bettencourt, de la même façon, n'a jamais dirigé. Hein. Elle a fait une vague initiation à ce que produisait le groupe L'Oréal. Elle est allée dans quelques boutiques.
Oui, c'est
elle
ça.
Jouait une espèce d'incarnation du groupe L'Oréal, mais jamais elle n'a dirigé. Elle a toujours joué son rôle d'actionnaire au sein du conseil d'administration. Et sa fille fait de même.
Une famille d'héritiers avant tout. Pour comprendre les affaires Bettencourt, il faut, on l'a évoqué au début de cette interview, avant tout essayer de comprendre bien la relation très particulière entre la fille, donc Françoise, et la mère, Liliane. Quand on lit les médias, on se dit que c'est vraiment, je trouve, froid, distant, compliqué. Quand on la lit dans votre interview avec elle, on a quand même le sentiment qu'elle a l'air de dire « Non mais attendez, ma mère et moi, ça va. » C'est quoi la vérité ?
En vérité, elle a follement aimé sa mère. Sa mère, sans aucun doute, l'a aimée, mais ne savait pas l'aimer. Il faut voir que la mère de Liliane est morte quand Liliane était enfant, 5 ans.
Ouais.
C'est difficile quand vous n'avez pas de modèle maternel vous-même pour l'être à votre tour.
Non, c'est sûr.
Donc,
c'est la seule école qu'on a finalement. Dans
exactement.
La vie,
hein, et donc, elle-même a manqué d'une mère, et quand Liliane est devenue mère à son tour, d'une fille unique, d'un seul enfant, elle a été assez distante. Françoise Bettencourt avait toujours coutume de dire « Ah, j'étais avec elle comme une moule à son rocher. » D'accord, mais un rocher, on ne peut pas dire que ce soit spécialement affectueux. C'est la dureté et la froideur. Donc derrière cette image qu'elle voulait affectueuse, on voit toute la, c'est la métaphore de la distance qu'elle a eue avec sa mère. Et puis, il y a des choses qui relèvent de l'époque. Dans les années 60, il y a le petit Éric Peugeot, qui était l'un des héritiers de la famille Peugeot, a été enlevé. Ça a pesé beaucoup sur les grandes familles fortunées françaises. Et c'est vrai qu'à cette époque, du coup, les Bettencourt, Liliane Bettencourt et son mari, ont immédiatement retiré Françoise de l'école et l'ont envoyée aux États-Unis. Là encore, elle a été éloignée, pour son bien sûr, pour éviter tout enlèvement. Mais ça a achevé de distendre les relations entre elles. Et puis enfin, Françoise Bettencourt aussi a choisi un mari qui n'était pas forcément celui qu'auraient choisi ses parents. Donc ça arrive évidemment très souvent, et c'est heureusement. On peut s'émanciper du choix de ses parents, mais elle a choisi...
Mais encore une fois, si on replace ça dans le contexte de l'époque, c'était quand même...
C'est très important, à vrai dire.
Ouais.
Elle a choisi, certes, le fils d'un haut cadre de L'Oréal, mais la famille Bettencourt, et notamment Eugène Schuller, le père de Liliane Bettencourt, a eu un passé très particulier.
Oui. On le raconte assez ouvertement.
Et son passé dans la cagoule, avec l'extrême droite, dans la collaboration, évidemment, et avec une espèce de réputation d'antisémitisme réel, évidemment, pesait sur la famille. Or, Françoise Bettencourt a choisi un jeune homme juif, petit-fils et arrière-petit-fils de rabbin. Ce n'était pas du tout ce que les Bettencourt espéraient. Ils auraient préféré un catholique, un grand bourgeois catholique. D'ailleurs, les parents de Jean-Pierre Meyers non plus ne souhaitaient pas.
À l'inverse, avoir...
eux aussi, ils auraient préféré que Jean-Pierre Meyers choisisse une jeune fille juive. Donc, ça a été déjà une espèce d'émancipation imposée à ses parents.
Est-ce qu'il faut voir là le début de l'histoire de l'autre ? Françoise, si je puis dire, justement pas la discrète et pas la moule accrochée à son rocher, mais celle qui, aujourd'hui en effet, même si sa mère est partie en 2017, continue très bien d'écrire cette histoire et l'a même assainie, et aujourd'hui va très bien et s'affirme et n'a plus besoin de personne.
En tout cas, c'est une femme sans éclat, mais qui est extrêmement tenace. Et effectivement, le choix de son mari est son premier acte de liberté à l'égard de la famille. Et elle l'a imposé à ses parents.
Et quelle était la relation de Françoise avec André, avec son père ?
Elle a aimé ses deux parents et elle a accompagné son père jusqu'à sa mort. Mais ses deux parents étaient à la fois des mondains qui eux-mêmes étaient assez distants entre eux. André Bettencourt n'aimait pas les femmes. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. Donc, il n'était pas non plus extraordinairement tendre avec Liliane Bettencourt.
Mais est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'André Bettencourt était homosexuel ?
Oh oui, ouais. Je pense qu'on peut le dire.
Ouais.
Donc, et Liliane Bettencourt, de son côté, était une femme à la fois extrêmement mondaine, très belle, intelligente, mais délaissée d'une certaine façon et assez seule. Ce qui explique d'ailleurs le succès qu'a eu François-Marie Bagné en arrivant dans la famille.
Ça explique évidemment beaucoup la suite de l'histoire. Quand la bataille judiciaire est lancée en 2007 contre Bagné, précisons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là tant d'héritage et d'argent au départ que de Liliane qui commence enfin à être un peu aimée, à être émoustillée, je peux dire ce mot, par François-Marie.
La très grande force de François-Marie Bagné, c'est son esprit. Il est très drôle. Il est très drôle, très insolent, sans respect des conventions bourgeoises. Donc, le contraire, d'une certaine façon, de Liliane Bettencourt. Ouais. Et quand il arrive, c'est vrai que c'est une espèce de vent frais qui arrive dans ce merveilleux hôtel particulier, mais qui en même temps est archi-confit. Y a très peu de fantaisie qui circule. Et il va l'emmener partout. C'est assez intéressant d'ailleurs sa façon de faire, parce que lui aussi est un homosexuel revendiqué. Or, il ne cesse de parler à Liliane comme une princesse, avec tous les mots de la séduction d'un homme à l'égard d'une femme. Il la flatte
ces
de
mots,
cette façon.
Je vous, dans leurs échanges, je vous embrasse jusqu'à vous en décrocher la mâchoire. Enfin, c'est quand même fort de dire ça. Enfin,
il joue au galant.
C'est pas les mots d'un ami. Enfin,
non, pas du tout.
Moi, je reçois
c'est
pas
c'est une espèce de fiancée platonique.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est l'idéal, à vrai dire, pour la famille Bettencourt. Mais il joue cette séduction.
Ami, amant, les deux.
Non, mais il est pas du tout amant.
Ouais.
Il joue à cela. Et elle, qui est au fond assez seule, ça lui plaît beaucoup. Puis il est très amusant, il faut bien le dire. Donc c'est un très bon compagnon. Le problème, c'est que lui n'est pas désintéressé. Et je pense que Françoise Bettencourt avait raison quand elle l'a accusé d'abuser de sa mère. Il n'est pas désintéressé et il avait déjà utilisé les mêmes techniques avec une autre femme, Madeleine Castaing, à laquelle il s'était fait donner des œuvres d'art exactement de la même façon.
Et donc là, des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, jusqu'à près d'un milliard d'euros de cadeaux. Moi, la question à laquelle je n'ai vraiment pas la réponse aujourd'hui, c'est comment, dans la tête de François-Marie Bagné, qui quand même a l'air d'être quelqu'un de pas dénué de sens non plus, comment il se dit, pas à un moment donné, mais ça va finir par se voir.
Oui, il aurait dû s'arrêter, et s'il s'était arrêté à temps, ça n'aurait pas fait scandale.
Non, mais votre réaction me rassure, je me dis, mais c'est possible à un moment donné. Évidemment, ça va finir par se voir.
Parce que
ça l'a rendu fou, quoi, à un moment.
Oui, lui-même il a été pris par l'émerveillement devant son propre empire, l'empire qu'il avait sur cette femme. Et donc, effectivement, il n'a plus su s'arrêter. Mais il faut dire qu'autour de Liliane Bettencourt, personne ne savait s'arrêter.
Oui, c'était pas le seul.
Tout le monde lui réclamait des cadeaux.
Et visible à la fin, mais c'était pas le seul.
Et on lui réclame pas un petit cadeau. Des membres de son personnel lui réclament des appartements. Vous voyez, on lui réclame pas juste j'adorerais, j'ai besoin de 1000 euros. Non, on lui réclame beaucoup, à la mesure de sa fortune.
Ouais, c'est ça.
Mais les gens ne savent pas s'arrêter. Et François-Marie Bagné, disons qu'il a poussé cette espèce d'emballement à l'excès. Mais il n'était pas le seul.
Il s'en sort quand même plutôt bien.
Il s'en sort très bien.
Non mais face à tout ce qu'il a reçu, donc on le redit, il a écopé de 4 ans avec sursis sans passer par la case prison. L'annulation de ses 158 millions d'euros de dommages et intérêts à verser à la famille Bettencourt, il peut donc garder l'argent et en sus les dons. C'est quand même sacrément bizarre que ça se termine comme ça.
Ça s'est terminé comme ça pour deux raisons. D'abord parce que effectivement l'abus de faiblesse, ou en tout cas est basé sur est-ce qu'elle était encore en état d'être lucide.
Lucide sur ses décisions.
Or, la décision de la placer sous tutelle arrive très tard. Donc tout ce qui a été donné avant est difficile à contester. Et au bout d'un moment, Françoise Meyer se met en cours devant le scandale à lâcher. Et elle a préféré en finir, lâcher cette somme très importante, mais enfin qui n'amoindrit que très peu son héritage, hein, il faut bien le dire. La plupart des choses les plus importantes lui avaient été données bien avant. Donc c'est pas vraiment une question d'argent pour elle, c'est plutôt une question à la fois d'amour symbolique et puis même elle a clairement vu quelqu'un qui abusait de sa mère et elle avait raison, encore une fois. Je me souviens très bien qu'une partie de l'opinion publique disait « Après tout, Liliane Bettencourt est riche, ça n'a pas d'importance. » D'accord, mais c'est quand même l'abus, il a abusé d'une vieille dame.
D'une vieille dame, oui, il faut le redire de manière aussi basique parce que c'est le cas et ça pourrait être le cas pour beaucoup d'autres personnes âgées. Elle a vraiment eu peur qu'on lui prenne sa place, Françoise, d'enfant, à un moment donné, avec François-Marie.
Mais il faut le dire qu'il en a été question, puisque François-Marie Bagnier, ne se contentant pas seulement des extraordinaires donations et cadeaux et libéralités que lui faisait Liliane Bettencourt, a voulu se faire adopter par elle. C'est-à-dire, donc, devenir son fils. Rentrer non seulement dans la succession, mais rentrer symboliquement dans la famille.
Mais il a vraiment cru que ça allait se passer. Enfin,
en tout cas, il l'a tenté.
Il l'a tenté.
En tout cas, il en était question.
Il l'a tenté.
Ça n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est à cause de cela.
Je serai le fils que vous n'avez jamais eu.
C'est à cause de cela que Françoise Meyer-Bettencourt réagit.
Oui, c'est d'ailleurs vraiment ça qui achève de la convaincre qu'il va pas falloir que ça continue comme ça. L'argent rend donc fou à tous les niveaux, même quand il y en a tellement qu'on n'a plus besoin de s'en soucier d'un point de vue matériel, l'argent restera toujours un sujet.
Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses et qui deviennent fous à l'idée d'accumuler des richesses qui, au fond, sont à un tel degré... Ça ne sert plus à rien. Une fois que vous avez une maison, un appartement, une belle voiture, que
dans
vous voyagez,
c'est la situation.
Ça n'a plus de sens. Oui. Ça n'a plus de sens.
Plus besoin de rien.
Ce n'est pas seulement ça. C'est une question de pouvoir, je crois. Et là, François-Marie Bagnier pouvait mesurer le pouvoir qu'il avait sur cette femme et sur son entourage à partir de ces millions et de ce milliard.
Ce que raconte cette histoire aussi, c'est que mine de rien, quand on s'ennuie, même si on a beaucoup d'argent.
Oui, c'est vrai. On a quand même plus de moyens pour essayer de tromper son ennui. On peut voyager, sortir, mais oui, on peut quand même s'ennuyer mortellement.
Ça a une limite. On retient surtout le volet politique et familial et financier de cette affaire. Clairement, moins le sujet de la vulnérabilité des personnes âgées. Vous le regrettez, vous qui avez beaucoup travaillé sur cette enquête?
Oui, j'ai été frappée. D'ailleurs, je pense que la presse, au départ, a fait une erreur sur François-Marie Bagnier. Elle a pensé que c'était, bon, d'abord un trublion charmant, puis une sorte de Robin des Bois. C'était pas un Robin des Bois. D'abord, il était lui-même assez riche. Et puis, encore une fois, il avait déjà tenté d'abuser d'une vieille dame. Et donc, évidemment que Liliane Bettencourt était si riche que ça n'avait pas tellement d'importance qu'elle distribue les millions. En tout cas, pour elle, ça ne changeait rien à son train de vie. C'est le principe qui est particulier. C'est d'abuser effectivement de la faiblesse et de la sénilité, puisqu'il faut bien prononcer ce mot. Peu à peu, elle a perdu sa lucidité. Elle, qui était une femme tout à fait maîtresse d'elle-même, elle a peu à peu effectivement été affaiblie, amoindrie, au point de ne plus savoir exactement ce qu'elle faisait.
Et c'est pourtant pas ce qui reste de cette histoire et de cette affaire. Loin de là.
Non. Parce que le volet politique a pris le dessus. Or, le volet politique, si vous le regardez, évidemment, c'est un problème, et notamment l'exil fiscal et les dons en nature, c'est évidemment. Mais si vous voulez, les dons qui ont concerné, par exemple, Nicolas Sarkozy, mais la même chose pour Mitterrand, c'est 150 000 euros. C'est sans comparaison avec 1 milliard d'euros pour François-Marie Bagnier.
Un milliard d'euros. Liliane Bettencourt est décédée donc en 2017. Au-delà de L'Oréal, qu'est-ce qu'elle laisse, elle, comme héritage intime à sa famille et notamment à ses deux petits-fils? Qu'est-ce qu'ils gardent? Ils voient, la valeur du travail, même si, en effet, on le disait, ils ont une vie d'héritier. Qu'est-ce qu'ils gardent comme héritage intime, ces deux garçons?
D'abord, c'est eux qui pourraient vous le dire mieux que moi, mais elle a incarné l'entreprise. Je parlerai que sur le plan professionnel.
Ouais.
Elle l'a incarné. Elle n'a jamais travaillé à l'intérieur de L'Oréal, mais elle en était l'image.
Ce slogan, parce que nous le valons bien, oui. Je m'inclus, hein. Mais est indissociable de ce nom Bettencourt et de cette femme. Quand même.
Exactement. Et elle a incarné cette entreprise qui était basée sur la beauté. Elle était très belle, c'est vrai. Elle était très élégante. Elle était aussi cultivée, très mondaine. Elle a existé dans le Paris des années 60, 70, 80. Donc, elle laisse ça, une image très forte de femme, en tout cas séduisante, sinon heureuse.
Et sur le passé collaborationniste, notamment d'Eugène Schueller, est-ce qu'on sait quel impact ça a aujourd'hui sur le moral, en tout cas, de Françoise et de ses deux fils? Est-ce qu'on sait que c'est quelque chose de encore lourd à porter aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont réussi?
Ah oui, mais ils ont agi.
Ouais.
Ils ont agi. Ouais. C'est-à-dire que dès que Jean-Pierre Meyer s'est arrivé dans la famille, et avec
a mis un bon coup de balai.
Le soutien absolu de Françoise Bettencourt, ils ont évincé tous ceux qui faisaient partie de cette époque. Ils ont vraiment rompu avec les restes de cet antisémitisme et de ce passé collaborationniste.
L'histoire a pris fin, en tout cas d'un point de vue judiciaire, en 2016. Une série documentaire sort sur Netflix fin 2023. Elle cartonne. C'était plutôt inattendu. En tout cas, ce n'était pas annoncé comme étant le succès de la rentrée de Netflix. Pourquoi, à votre avis, cette famille attise toujours autant la curiosité, fascine toujours autant?
Parce que c'est une famille qui, en tant que telle, d'ailleurs, n'est pas tellement connue, mais elle a une position symbolique. Cette bataille entre une mère et sa fille, au fond, c'est un sujet éternel. Je crois que...
Et universel. Ouais.
Et universel. Personne ne peut évidemment s'identifier à une telle fortune. Tout le monde peut s'identifier à des sentiments semblables. Et donc, c'est ça qui intéresse les gens. Est-ce qu'on est un enfant mal aimé ou pas? Est-ce qu'on est capable de s'émanciper de ses parents? Est-ce qu'on est capable de les sauver puis de les tuer d'une certaine façon? Évidemment, ça a un retentissement dans chacune des familles que nous connaissons et les nôtres.
Je rappelle que vous faites partie des témoins de ce document. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous étiez contente du résultat? Je sais que, autre témoin, Ariel Dombal, qui est une amie depuis de longues dates de Françoise Meyers, était moins contente du résultat final. Elle l'a fait savoir. Comment ça s'est passé pour vous, Raphaël Baquet?
Moi, très bien. Je trouve que le documentaire est très bien. Il donne une très grande part à la politique, mais je le comprends. Je le comprends. Je pense que, mais ce n'est pas lié au documentaire, c'est lié aux écoutes. François Barry Bagné a de la chance de ne pas figurer sur les écoutes. Comme il rencontrait Liliane Bettencourt dans sa chambre, où il n'y avait pas ce petit enregistreur que le majordome déposait, on ne l'entend pas. Et donc, on n'entend pas la façon dont il a installé son emprise sur Liliane Bettencourt.
Vous voulez dire par là que ça aurait pu être terriblement accablant pour lui?
Je pense qu'il s'en sort bien.
Oui,
je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile.
On peut aller jusqu'à dire que l'affaire Bettencourt, indépendamment de ces sommes folles qu'on a évoquées, est aussi tout simplement l'histoire d'une famille française.
Oh, c'est une famille tout à fait particulière, mais en tout cas, l'abus que peut subir une vieille dame, oui, chacun peut le connaître dans sa famille. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait universel. Les relations entre une mère et sa fille, c'est tout à fait universel. Donc, le contexte est exceptionnel. Personne, d'ailleurs, n'est aussi riche que la famille Bettencourt, bien sûr. Mais la réalité des sentiments, elle se retrouve partout ailleurs.
Un petit peu plus de 10 ans plus tard, si vous étiez à nouveau face à Françoise Meyers, de quoi auriez-vous envie de lui parler en premier, Raphaël Baquet?
De l'éducation qu'elle a donnée à ses fils. Je pense que je suis intéressée par cela. Je pense qu'elle les a certainement éduqués avec le souci de leur droiture morale, mais je suis étonnée qu'elle les ait moins éduqués au travail. Et ça m'intéresserait, moi-même en tant que mère d'ailleurs, mais je trouve que c'est une question qui se pose à toutes les familles, et plus encore quand on est très riche. Comment fait-on justement pour ne pas générer l'oisiveté, puisqu'on n'a pas besoin de travailler?
Quand on n'a pas besoin de
Donc j'aimerais beaucoup discuter de cela avec elle, et voilà. C'est la question primordiale que je lui poserai.
On serait ravis de vous recevoir si vous le faites un jour pour que vous nous racontiez les coulisses de cette interview. Merci beaucoup, Raphaël Baquet, journaliste, grand reporter au Monde, autrice, le livre donc, dont on parle dans le récit. Merci de nous accorder cet entretien et la possibilité de le citer, c'est Succession, coécrit avec Vanessa Schneider et publié chez Albin Michel. Est-ce que vous voulez qu'on annonce votre prochain ouvrage ?
Oui, si vous voulez. On s'est intéressé avec Samuel Blumenfeld à Gérard Depardieu, bien sûr, sur lequel nous avions écrit une grande série pour le journal et nous avons poursuivi l'enquête et donc on publiera un livre sur cet homme à la fois grand acteur et homme beaucoup plus discutable sur cette espèce de d'autodestruction, hein. C'est presque l'anatomie d'une chute.
Rendez-vous aux Oscars aussi. Sortie prévue
en avril.
En avril. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur RTL. À bientôt.
Merci.
Et merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel, la saga Bettencourt. Un numéro fait en équipe avec Dany Matouk à la réalisation, Thomas Pierre à l'écriture et Marie-Caroline Mandon à la programmation et à la production. Je vous rappelle que tous les autres épisodes de Confidentiel sont disponibles à tout moment sur RTL.fr ou sur l'appli RTL.
RTL.
Confidentiel.
Ophélie Meunier.